franceinter.fr.
Qu'est-il vraiment dans nos cosmétiques quotidiens? Une enquête de l'association Que Choisir aujourd'hui à la une.
Eh bien, ça sent bon ici.
Alors, si ça sent bon, c'est moi.
C'est moi.
Qu'est-ce que tu disais, moi?
On sent bon et en plus, on est sans parabènes, sans colorants, sans phtalates.
Ah bon?
Ah rien. Walou, trop fort, non?
Bonjour Olivier Andreau.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission pour l'UFC Que Choisir et vous pointez du doigt aujourd'hui 185 cosmétiques courants, des dentifrices, déodorants, des crèmes pour le visage, après-rasage, des soins pour les cheveux, que vous jugez préoccupants en raison de leur composition. Pour en parler, nous sommes également en ligne avec le dermatologue de l'hôpital Saint-Louis, Fabien Guibal. Bonjour à vous.
Bonjour.
Olivier Andreau, votre enquête n'a pas été des plus compliquées à mener, hein, puisque vous avez simplement retourné les produits en supermarché et passé en revue donc les ingrédients mentionnés sur les étiquettes. Qu'avez-vous trouvé?
Eh bien, on a cherché 12 composés qui sont considérés comme préoccupants et dont certains d'entre eux font des recommandations de la part d'instances officielles et dont des produits qu'on peut utiliser tout un chacun, qu'on utilise tout un chacun tous les jours. Donc, effectivement, vous avez mentionné des déodorants, des shampoings, des crèmes de jour, etc. dans les rayons de la grande distribution. Et effectivement, on ne les a pas analysés. On s'est contenté d'utiliser un outil réglementaire qu'on a obtenu, nous, de Haute Lutte, il y a déjà quelques années, qui est l'obligation d'indiquer la composition, la totalité des composants qui entrent dans la fabrication de ces produits. C'est déjà une chose. Et donc, c'est très informatif puisqu'on voit que dans la foultitude de composés qui sont présents, eh bien, nous, on arrive à détecter la présence de ces composés. En ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, par exemple, on a dénombré 101. En ce qui concerne les allergènes, 66 produits qui en contiennent, et puis ainsi de suite. Et ce ne sont pas uniquement des produits qui sont destinés aux adultes, mais c'est également des produits qui sont destinés aux tout jeunes consommateurs, que sont les jeunes enfants, voire les bébés. On a trouvé par exemple du phénoxyéthanol, qui est un conservateur considéré comme toxique à forte dose pour le foie et le sang, dans pas moins de 8 lingettes, y compris de grandes marques.
Axel.
Oui, Fabien Guibal, est-ce que ces composés jugés préoccupants par Que Choisir le sont aussi pour vous?
Dermatologue.
Dermatologue, bien sûr.
Ils sont préoccupants si on les prend complètement isolément. C'est-à-dire qu'il faut voir à partir de quoi on définit comme préoccupant ou pas un produit. Et il ne faut pas oublier que c'est en général à partir d'études in vitro, c'est-à-dire dans des tubes à essai, et ensuite in vivo sur des modèles d'animaux. Et je rappelle qu'un rat, une souris, ça n'est pas un humain, et que ce qui peut être toxique pour une souris ou un rat ne l'est pas forcément pour un humain. Et surtout, il faut voir les doses utilisées. Dit autrement, la saccharine avait et a encore la réputation d'être cancérigène. Vous savez, le faux sucre. Sauf que si vous regardez les quantités de saccharine qui ont été données aux souris qui ont développé des tumeurs cancéreuses, eh bien, et je vous promets, ça n'est pas une boutade de ma part, si on leur avait donné du gruyère dans les mêmes quantités, elles auraient probablement aussi fait un cancer. Ce que je veux dire, c'est que les quantités administrées à ces animaux sont totalement déconnectées de la réalité du consommateur. On ne retrouve jamais les mêmes doses. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, et c'est très bien que Choisir attire l'attention des consommateurs sur ces produits, mais ensuite, de là à se dire que le produit lui-même est toxique, quel que soit le produit qui le contient, quelle qu'en soit la dose et quelle qu'en soit l'utilisation, c'est une généralité qui risque d'inquiéter les gens et qui en plus pose un autre problème, c'est par quoi on va remplacer toutes ces molécules, parce qu'on n'a pas forcément de produits de remplacement, c'est par exemple ce qui nous est arrivé avec le propylène glycol. Et maintenant, on est coincé parce que la molécule qui a servi à le remplacer pose aussi un problème.
Alors, Olivier Andreau, réaction au propos de Fabien Guibal.
Réaction, deux choses. Tout d'abord, l'UFC Que Choisir, nous, on n'est pas des scientifiques. Et ça, c'est très important que le professeur Guibal le souligne. Chacun a sa place. Et nous avons utilisé notamment les recommandations qui existent, par exemple, sur les propylbutylparabènes. Donc, en l'occurrence, il y a une instance européenne qui s'appelle le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs qui a édicté des recommandations pour diminuer exposition sur ces composés. Même chose sur la méthylisothiazolinone, un autre conservateur qui, lui, est un allergène, un allergène qui est fortement mis en cause ces derniers temps, justement parce qu'on l'a utilisé pour remplacer ces fameux parabènes à longue chaîne. Même chose, là, il y a des recommandations. Et puis, phénoxyéthanol, un autre exemple, pour lequel il y a des recommandations de notre agence des médicaments, la NSM. Donc, j'aurais déjà rappelé que c'est là-dessus que nous nous basons. Deuxièmement, effectivement, la dose fait l'effet. Ça, c'est une première chose. La dose, c'est pas seulement la dose que l'on met soi-même ou que le fabricant met dans le produit, mais c'est aussi l'exposition répétée, c'est-à-dire tous les jours. C'est aussi l'exposition lorsqu'il s'agit d'un produit qui va être rincé, auquel cas l'exposition va être faible, ou au contraire, s'il s'agit d'un produit qui n'est pas rincé, typiquement une crème de visage, elle aura toute la journée pour relarguer ses composés. Voilà, donc ce sont ces éléments-là aussi qui entrent en compte dans l'appréciation que nous faisons des risques évoqués.
Vous parlez tous les deux depuis tout à l'heure de conservateur. À quoi sert un conservateur dans un cosmétique ?
Allez, je vais vous parler de la mayonnaise. Beaucoup de nos produits cosmétiques sont, en fait, ont deux composés principaux. De l'eau, hein, une base aqueuse, et puis une base de matière grasse, puisqu'il faut à la fois hydrater et préserver la peau, qui a un film lipidique, un film gras naturel sur la peau. Et donc, on le reconstitue en partie avec ces composés. Le problème, c'est que quand vous faites un mélange d'eau et de matière grasse comme ça, typiquement quand vous faites une mayonnaise, quand vous faites une chantilly, eh bien, c'est une émulsion et qui est un terrain de jeu et de développement idéal pour les bactéries. Et donc, pour éviter que progressivement vous ayez quelque chose d'extrêmement dangereux lorsque vous allez mettre sur la peau, imaginez une mayonnaise que vous conserviez plusieurs mois à température ambiante, vous n'auriez pas l'idée de la resservir à vos invités. Pourtant, c'est ce que vous faites avec des cosmétiques, d'où l'intérêt des conservateurs.
Alors, Olivier Andreau, sauf que derrière ce message de 185 produits préoccupants, qu'est-ce que vous dites aux consommateurs, puisque vous le dites vous-même, vous n'êtes pas scientifique et que pour l'instant, on n'a pas de preuve des effets néfastes de ces perturbateurs endocriniens sur l'homme.
Ah, attendez, je voudrais bien distinguer. Il y a différents types de composés. Il y a et pas seulement des perturbateurs endocriniens que nous avons relevés dans notre analyse. Il y a des produits qui sont toxiques à forte dose, le phénoxyéthanol, des allergènes.
Oui,
qui,
à forte dose, on est d'accord.
À forte dose, oui, mais il y a... Attendez, alors justement, phénoxyéthanol, vous avez une recommandation de l'ANSM, l'agence du médicament dont je parlais, qui date de 2013, donc c'est pas hier, qui disait eh bien qu'il ne devrait pas y avoir de phénoxyéthanol, ce conservateur, dans les cosmétiques destinés aux sièges, hein, les fesses de bébés et tous les enfants de moins de 3 ans. En la même année, nous faisons un test sur des produits destinés aux bébés et on a trouvé du phénoxyéthanol dans 14 lingettes sur 27, 3 les toilettes sur 7. 3 ans plus tard, en 2016. Maintenant, nous faisons la même enquête, on a encore 8 lingettes pour bébés qui contiennent ce composé. Donc vous voyez qu'il y a quand même des problèmes. Même chose en ce qui concerne la méthylisothiazolinone, on n'est pas dans les perturbateurs endocriniens, c'est un allergène. Il y a depuis de longues dates des alertes des allergologues et à tel point qu'en 2013, c'est le syndicat professionnel qui représente la profession des cosmétiques en Europe, Cosmetics Europe, qui a recommandé, je cite, l'arrêt sur les produits sans rinçage, y compris sur les lingettes de la méthylisothiazolinone, sans attendre une possible évolution réglementaire et de le mettre immédiatement en œuvre. 3 ans plus tard, nous refaisons la même enquête, nous trouvons de la méthylisothiazolinone dans 55 produits, dont les 3/4 sont non rincés. Pire, le mélange méthylisothiazolinone et chlorométhylisothiazolinone, excusez-moi, mais c'est la réalité de la complexité, qui est le plus mis en lumière par rapport aux problèmes allergisants, eh bien, on en trouve dans 28 produits.
Allez Axel, dernière question à Fabien Gubal.
Fabien Gubal, est-ce qu'il faut, après qu'on ait entendu tous ces gros mots, regarder les étiquettes avant d'acheter un produit ? Pour vous, c'est important ?
Oui, c'est très important que ce soit à l'échelle individuelle, savoir ce qu'on fait et pouvoir en mesurer le risque. C'est pour ça que je trouve très bien tout ce que vient de dire mon interlocuteur. L'objectif, c'est de mettre en perspective. Encore une fois, toutes ces données sont extrêmement importantes à avoir en tête, mais il faut pouvoir les mettre en perspective. Tous les produits ne sont pas concernés, ou en tout cas pas tous de la même manière, et la toxicité dépend de la dose. Je voudrais simplement que les consommateurs ne terminent pas cette émission en se disant « il y a du poison partout, je ne peux plus utiliser de cosmétiques ». Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser des cosmétiques, hein. Ça, c'est encore un autre problème. Régulièrement, les cosmétiques sont vendus comme ayant des pouvoirs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais en tout cas, que le niveau d'anxiété global soit proportionné. On a l'impression qu'on vit dans un univers où, en gros, dès qu'on sort de chez soi, on va prendre un coup sur la tête.
Merci beaucoup. En tout cas, on va terminer là-dessus, Fabien Gubal. Cette une, Olivier Andreau, merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette enquête, donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Vous la commentez en tout cas beaucoup aujourd'hui avec l'UFC. Que choisir ? Merci Axel.
À demain Mathieu.
Allez, à demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, en un siècle, les eaux du globe sont montées plus vite qu'en 3000 ans. Une équipe anglaise estime que le niveau des eaux s'est élevé de 14 cm depuis 1900. Pour réaliser cette étude, des géologues ont répertorié des données empiriques sur 24 sites différents. Et pour compléter ces données pratiques, des modèles mathématiques mathématiques ont permis de conclure que sans le réchauffement climatique, l'eau serait montée seulement de 3 cm ce siècle dernier. Si le réchauffement perdure au même rythme qu'aujourd'hui, le 21e siècle devrait connaître une nouvelle augmentation de 11 cm des niveaux marins. Les glyptodons, une lignée éteinte de tatous. La famille des glyptodontes était bien connue des biologistes, mais leur lien de parenté avec les tatous n'était pas encore clairement prouvé. Mission accomplie par les chercheurs du CNRS notamment, qui publient un rapport dans lequel ils comparent l'ADN contenu dans les mitochondries de la carapace des glyptodontes à l'ADN des tatous. Eh bien, les glyptodontes, ces tatous géants qui pesaient entre 1 et 2 tonnes, se sont éteints il y a 35 millions d'années. À défaut de faire un saut de quelques millions d'années dans le passé, vous pouvez les observer en images sur le site de la Tête au Carré. Et puis pour terminer, des vidéos saisissantes en 3D de cellules cancéreuses. On savait déjà observer ces cellules in vivo, mais seulement sous verre. Eh bien, pour les conserver intactes, des chercheurs américains ont décidé de les placer dans un bloc de collagène grâce à cette nouvelle technique de culture couplée à de l'imagerie laser. Ils dévoilent aujourd'hui plusieurs vidéos inédites d'une précision de 300 nanomètres. Elles nous montrent les bourgeonnements et les excroissances en temps réel de plusieurs cellules cancéreuses. Vous pouvez visionner ces images saisissantes sur le Facebook et le Twitter de l'attaque.